Chapitre 230. Le faux roi. Cependant, à Vaux, la royauté usurpatrice continuait bravement son rôle. Philippe donna ordre qu'on introduisît pour son petit lever les grandes entrées, déjà prêtes à paraître devant le roi. Il se décida à donner cet ordre, malgré l'absence de M. d'Herblay, qui ne revenait pas, et nos lecteurs savent pour quelle raison. Mais le prince, ne croyant pas que cette absence pût se prolonger, voulait, comme tous les esprits téméraires, essayer sa valeur et sa fortune, loin de toute protection, de tout conseil. Une autre raison l'y poussait. Anne d'Autriche allait paraître. La mère coupable allait se trouver en présence de son fils sacrifié. Philippe ne voulait pas, s'il avait une faiblesse, en rendre témoin l'homme envers lequel il était désormais tenu de déployer tant de force. Philippe ouvrit les deux battants de la porte et plusieurs personnes entrèrent silencieusement. Philippe ne bougea point tant que ses valets de chambre l'habillèrent. Il avait vu la veille les habitudes de son frère. Il fit le roi de manière à n'éveiller aucun soupçon. Ce fut donc tout habillé avec l'habit de chasse qu'il reçut les visiteurs. Sa mémoire et les notes d'Aramis lui annoncèrent tout d'abord Anne d'Autriche, à laquelle monsieur donnait la main, puis madame avec monsieur de Saint-Aignan. Il sourit en voyant ses visages et frissonna en reconnaissant sa mère. Cette figure noble et imposante, ravagée par la douleur, vint plaider dans son cœur la cause de cette fameuse reine qui avait immolé un enfant à la raison d'État. Il trouva que sa mère était belle. Il savait que Louis XIV l'aimait, et il se promit de l'aimer aussi, et de ne pas être pour sa vieillesse un châtiment cruel. Il regarda son frère avec un attendrissement facile à comprendre. Celui-ci n'avait rien usurpé, rien gâté dans sa vie. Rameau écarté, il laissait monter la tige, sans souci de l'élévation et de la majesté de sa vie. Philippe se promit d'être bon frère pour ce prince auquel suffisait l'or qui donne les plaisirs. Il salua d'un air affectueux Saint-Aignan, qui s'épuisait en sourires et révérences, et tendit la main en tremblant à Henriette, sa belle-sœur, dont la beauté le frappa. Mais il vit dans les yeux de cette princesse un reste de froideur qui lui plut pour la facilité de leur relation future. « Combien me sera-t-il plus aisé, pensait-il, d'être le frère de cette femme que son galant, si elle me témoigne une froideur que mon frère ne pouvait avoir pour elle et qui m'est imposée comme un devoir. » La seule visite qu'il redouta en ce moment était celle de la reine. Son cœur, son esprit, venait d'être ébranlé par une épreuve si violente que, malgré leur trempe solide, ils ne supporteraient peut-être pas un nouveau choc. Heureusement, la reine ne vint pas. Alors commença, de la part d'Anne d'Autriche, une dissertation politique sur l'accueil que M. Fouquet avait fait à la maison de France. Elle entremêla ses hostilités de compliments à l'adresse du roi, de questions sur sa santé, de petites flatteries maternelles et de ruses diplomatiques. « Eh bien, mon fils, dit-elle, êtes-vous revenu sur le compte de M. Fouquet ?»« Saint-Aignan, dit Philippe, veuillez aller savoir des nouvelles de la reine. » À ces mots, les premiers que Philippe eut prononcés tout haut, la légère différence qu'il y avait entre sa voix et celle de Louis XIV fut sensible aux oreilles maternelles. Anne d'Autriche regarda fixement son fils. Saint-Aignan sortit. Philippe continua. « Madame, je n'aime pas qu'on me dise du mal de M. Fouquet, vous le savez, et vous m'en avez dit du bien vous-même. C'est vrai. Aussi ne fais-je que vous questionner sur l'état de vos sentiments à son égard. » « Sire, dit Henriette, j'ai, moi, toujours aimé M. Fouquet. » C'est un homme de bon goût, un brave homme. » Un surintendant qui ne lésine jamais, ajouta monsieur, et qui paie en or toutes les cédules que j'ai sur lui. On compte trop ici chacun pour soi, dit la vieille reine. Personne ne compte pour l'État. Monsieur Fouquet, c'est un fait, Monsieur Fouquet ruine l'État. Allons, ma mère, repartit Philippe d'un ton plus bas. Est-ce que, vous aussi, vous vous faites le bouclier de Monsieur Colbert ?
Comment cela ? Fit la vieille reine surprise.
C'est que, en vérité, reprit Philippe, je vous entends parler là comme parlerait votre vieille amie, Madame de Chevreuse. À ce nom, Anne d'Autriche pâlit et pinça ses lèvres. Philippe avait irrité la lionne.
« Que venez-vous me parler de Madame de Chevreuse » dit-elle, « et quelle humeur avez-vous aujourd'hui contre moi ?»
Philippe continua. « Est-ce que Madame de Chevreuse n'a pas toujours une ligue à faire contre quelqu'un ? Est-ce que Madame de Chevreuse n'a pas été vous rendre une visite, ma mère ?»«
Monsieur, vous me parlez ici d'une telle sorte, repartit la vieille reine, que je crois entendre le roi votre père. »
« Mon père n'aimait pas Madame de Chevreuse, et il avait raison, dit le prince. Moi, je ne l'aime pas non plus, et, si elle s'avise de venir, comme elle y venait autrefois, semer les divisions et les haines sous prétexte de mendier de l'argent, eh bien ?»«
Eh bien ?» dit fièrement Anne d'Autriche, provoquant elle-même l'orage.
« Eh bien ?» repartit avec résolution le jeune homme, « je chasserai du royaume Madame de Chevreuse, et avec elle tous les artisans de secrets et de mystères. » Il n'avait pas calculé la portée de ce mot terrible, ou peut-être avait-il voulu en juger les faits, comme ceux qui, souffrant d'une douleur chronique et cherchant à rompre la monotonie de cette souffrance, appuient sur leur plaie pour se procurer une douleur aiguë. Anne d'Autriche faillit s'évanouir. Les yeux ouverts, mais atones, cessèrent de voir pendant un moment. Elle tendit les bras à son autre fils, qui, aussitôt, l'embrassa sans crainte d'irriter le roi.
« Sire, murmura-t-elle, vous traitez cruellement votre mère. »«
Mais en quoi, madame ? Répliqua-t-il. « Je ne parle que de Madame de Chevreuse, et ma mère préfère-t-elle Madame de Chevreuse à la sûreté de mon état et à la sécurité de ma personne ? Eh bien, je vous dis que Madame de Chevreuse est venue en France pour emprunter de l'argent, qu'elle s'est adressée à M. Fouquet pour lui vendre certains secrets.
« Certains secrets ? » s'écria Anne d'Autriche.
« Concernant de prétendus vols que M. le surintendant aurait commis. Ce qui est faux, ajouta Philippe. M. Fouquet l'a fait chasser avec indignation, préférant l'estime du roi à toute complicité avec des intrigants. Alors, Madame de Chevreuse a vendu le secret à M. Colbert, et, comme elle est insatiable et qu'il ne lui suffit pas d'avoir extorqué 100 000 écus à ce commis, elle a cherché plus haut si elle ne trouverait pas des sources plus profondes. Est-ce vrai, madame ?
Vous savez tout, sire, dit la reine, plus inquiète qu'irritée.
Or, poursuivit Philippe, j'ai bien le droit d'en vouloir à cette furie qui vient tramer à ma cour le déshonneur des uns et la ruine des autres. Si Dieu a souffert que certains crimes fussent commis, et s'il les a cachés dans l'ombre de sa clémence, je n'admets pas que Madame de Chevreuse ait le pouvoir de contrecarrer les desseins de Dieu. » Cette dernière partie du discours de Philippe avait tellement agité la reine-mère que son fils en eut pitié. Il lui prit et lui baisa tendrement la main. Elle ne sentit pas que, dans ce baiser donné, malgré les révoltes et les rancunes du cœur, il y avait tout un pardon de 8 années d'horribles souffrances. Philippe laissa un instant de silence engloutir les émotions qui venaient de se produire. Puis, avec une sorte de gaieté, « Nous ne partirons pas encore aujourd'hui, dit-il, j'ai un plan. » Et il se tourna vers la porte où il espérait voir Aramis, dont l'absence commençait à lui peser. La reine-mère voulut prendre congé. « Demeurez, ma mère, dit-il, je veux vous faire la paix avec Monsieur Fouquet. »«
Mais je n'en veux pas à Monsieur Fouquet, je craignais seulement ses prodigalités. » »«
Nous y mettrons ordre, et ne prendrons du surintendant que les bonnes qualités. »
« Que cherche votre majesté ? dit Henriette, voyant le roi regarder encore vers la porte, et désirant lui décocher un trait au cœur, car elle supposait qu'il attendait la Vallière ou une lettre d'elle. « Ma sœur, dit le jeune homme qui venait de la deviner, grâce à cette merveilleuse perspicacité dont la fortune lui allait désormais permettre l'exercice, ma sœur, j'attends un homme extrêmement distingué, un conseiller des plus habiles que je veux vous présenter à tous en le recommandant à vos bonnes grâces. Ah, entrez donc, D'Artagnan !» D'Artagnan parut. « Que veut Sa Majesté ? Dites donc, où est monsieur l'évêque de Vannes, votre ami ? Mais, sire, je l'attends et ne le vois pas venir. Qu'on me le cherche. » D'Artagnan demeura un instant stupéfait. Mais bientôt, réfléchissant qu'Aramis avait quitté Vaux secrètement avec une mission du roi, il en conclut que le roi voulait garder le secret. « Sire, répliqua-t-il, est-ce que votre majesté veut absolument qu'on lui amène M. d'Herblay ?»« Absolument n'est pas le mot, répliqua Philippe. Je n'en ai pas un tel besoin. Mais si on me le trouvait... » J'ai deviné, se dit D'Artagnan. Ce monsieur d'Herblay, dit Anne d'Autriche, c'est l'évêque de Vannes? Oui, madame. Un ami de monsieur Fouquet? Oui, madame, un ancien mousquetaire. Anne d'Autriche rougit. Un de ces quatre braves qui jadis firent tant de merveilles. La vieille reine se repentit d'avoir voulu mordre. Elle rompit l'entretien pour y conserver le reste de ses dents. « Quel que soit votre choix, sire, dit-elle, je le tiens pour excellent. » Tous s'inclinèrent. « Vous verrez, continua Philippe, la profondeur de M. de Richelieu, moins l'avarice de M. de Mazarin. » « Un premier ministre, sire, demanda M. effrayé. « Je vous conterai cela, mon frère, mais c'est étrange que M. d'Herblay ne soit pas ici. » Il appela. « Qu'on prévienne M. Fouquet, dit-il, j'ai à lui parler. « Oh, devant vous, ne vous retirez point. » M. de Saint-Aignan revint, apportant des nouvelles satisfaisantes de la reine, qui gardait le lit seulement par précaution et pour avoir la force de suivre toutes les volontés du roi. Tandis que l'on cherchait partout M. Fouquet et Aramis, le nouveau roi continuait paisiblement ses épreuves, et tout le monde, famille, officiers, valets, reconnaissait le roi à son geste, à sa voix, à ses habitudes. De son côté, Philippe, appliquant sur tous les visages la note et le dessin fidèle fourni par son complice Aramis, se conduisait de façon à ne pas même soulever un soupçon dans l'esprit de ceux qui l'entouraient. Rien désormais ne pouvait inquiéter l'usurpateur. Avec quelle étrange facilité la Providence ne venait-elle pas de renverser la plus haute fortune du monde pour y substituer la plus humble? Philippe admirait cette bonté de Dieu en son égard et la secondait avec toutes les ressources de son admirable nature. Mais il sentait parfois comme une ombre se glisser sur les rayons de sa nouvelle gloire. Aramis ne paraissait pas. La conversation avait langui dans la famille royale. Philippe, préoccupé, oubliait de congédier son frère et Madame Henriette. Ceux-ci s'étonnaient et perdaient peu à peu patience. Anne d'Autriche se pencha vers son fils et lui adressa quelques mots en espagnol. Philippe ignorait complètement cette langue. Il pâlit devant cet obstacle inattendu. Mais, comme si l'esprit de l'imperturbable Aramis l'eût couvert de son infaillibilité, au lieu de se déconcerter, Philippe se leva. « Eh bien, quoi ? Répondez ! » dit Anne d'Autriche. « Quel est tout ce bruit ? » demanda Philippe en se tournant vers la porte de l'escalier dérobé. Et l'on entendit une voix qui criait « Par ici ! Par ici ! Encore quelques degrés, sire !» La voix de M. Fouquet dit D'Artagnan, placé près de la reine-mère. « Monsieur d'Herblay ne saurait être loin, » ajouta Philippe. Mais il vit ce qu'il était bien loin de s'attendre à voir si près de lui. Tous les yeux s'étaient tournés vers la porte par laquelle allait entrer M. Fouqué. Mais ce ne fut pas lui qui entra. Un cri terrible partit de tous les coins de la chambre, cri douloureux poussé par le roi et les assistants. Il n'est pas donné aux hommes, même à ceux dont la destinée renferme le plus d'éléments étranges et d'accidents merveilleux, de contempler un spectacle pareil à celui qu'offrait la chambre royale en ce moment. Les volets, à demi-clos, ne laissaient pénétrer qu'une lumière incertaine, tamisée par de grands rideaux de velours doublés d'une épaisse soie. Dans cette pénombre moelleuse, s'étaient peu à peu dilatés les yeux, et chacun des assistants voyait les autres plutôt avec la confiance qu'avec la vue. Toutefois, on en arrive, dans ces circonstances, à ne laisser échapper aucun des détails environnants, et le nouvel objet qui se présente apparaît lumineux comme s'il était éclairé par le soleil. C'est ce qui arriva pour Louis XIV lorsqu'il se montra, pâle et le sourcil froncé, sous la portière de l'escalier secret. Fouqué laissa voir, derrière, son visage empreint de sévérité et de tristesse. La reine-mère, qui aperçut Louis XIV et qui tenait la main de Philippe, poussa le cri dont nous avons parlé, comme elle eût fait en voyant un fantôme. Monsieur eut un mouvement d'éblouissement et tourna la tête de celui des deux rois qu'il apercevait en face vers celui aux côtés duquel il se trouvait. Madame fit un pas en avant, croyant voir se refléter dans une glace son beau-frère. Et, de fait, l'illusion était possible. Les deux princes, défaits l'un et l'autre, car nous renonçons à peindre l'épouvantable saisissement de Philippe, et tremblant tous deux, crispant l'un et l'autre une main convulsive, se mesuraient du regard et plongeaient leurs yeux comme des poignards dans l'âme l'un de l'autre. Muets, haletants, courbés, ils paraissaient prêts à fondre sur un ennemi. Cette ressemblance inouïe du visage, du geste, de la taille, tout, jusqu'à une ressemblance de costume décidée par le hasard, car Louis XIV était allé prendre au Louvre un habit de velours violet, cette parfaite analogie des deux princes acheva de bouleverser le cœur d'Anne d'Autriche. Elle ne devinait pourtant pas encore la vérité. Il y a de ces malheurs que nul ne veut accepter dans la vie. On aime mieux croire au surnaturel, à l'impossible. Louis n'avait pas compté sur ces obstacles. Il s'attendait, en entrant seulement, à être reconnu. Soleil vivant, il ne souffrait pas le soupçon d'une parité avec qui que ce fût. Il n'admettait pas que tout flambeau ne devint ténèbre à l'instant où il faisait luire son rayon lumineux. Aussi, à l'aspect de Philippe, fut-il plus terrifié peut-être qu'aucun autre autour de lui, et son silence, son immobilité, furent ce temps de recueillement et de calme qui précède les violentes explosions de la colère. Mais Fouqué, qui pourrait peindre son saisissement et sa stupeur en présence de ce portrait vivant de son maître? Fouqué pensa qu'Aramis avait raison, que ce nouveau venu était un roi aussi pur dans sa race que l'autre, et que, pour avoir répudié toute participation à ce coup d'État si habilement fait par le général des Jésuites, il fallait être un fol enthousiaste, indigne à jamais de tremper ses mains dans une œuvre politique. Et puis, c'était le sang de Louis XIII que Fouqué sacrifiait au sang de Louis XIII. C'était à une ambition égoïste qu'il sacrifiait une noble ambition. C'était au droit de garder qu'il sacrifiait le droit d'avoir. Toute l'étendue de sa faute lui fut révélée par le seul aspect du prétendant. Tout ce qui se passa dans l'esprit de Fouqué fut perdu pour les assistants. Il eut 5 minutes pour concentrer ses méditations sur ce point du cas de conscience. 5 minutes, c'est-à-dire 5 siècles, pendant lesquels les deux rois et leurs familles trouvèrent à peine le temps de respirer d'une si terrible secousse. D'Artagnan, adossé au mur, en face de Fouqué, le poing sur le front, l'œil fixe, se demandait la raison d'un si merveilleux prodige. il n'eût pu dire sur-le-champ pourquoi il doutait. Mais il savait, assurément, qu'il avait eu raison de douter et que, dans cette rencontre des deux Louis XIV, gisait toute la difficulté qui, pendant ces derniers jours, avait rendu la conduite d'Aramis si suspecte aux mousquetaires. Toutefois, ses idées étaient enveloppées de voiles épais. Les acteurs de cette scène semblaient nager dans les vapeurs d'un lourd réveil. Soudain, Louis XIV, plus impatient et plus habitué à commander, courut à un des volets qu'il ouvrit en déchirant les rideaux. Un flot de vive lumière entra dans la chambre et fit reculer Philippe jusqu'à l'alcôve. Ce mouvement, Louis le saisit avec ardeur et s'adressant à la reine. « Ma mère, dit-il, ne reconnaissez-vous pas votre fils, puisque chacun ici a méconnu son roi ?» Anne d'Autriche tressaillit et leva les bras au ciel sans pouvoir articuler un mot. « Ma mère, dit Philippe avec une voix calme, ne reconnaissez-vous pas votre fils ?» Et cette fois, Louis recula à son tour. Quant à Anne d'Autriche, elle perdit l'équilibre, frappée à la tête et au cœur par le remords. Nul ne l'aidant, car tous étaient pétrifiés, elle tomba sur son fauteuil en poussant un faible soupir. Louis ne put supporter ce spectacle et cet affront. Il bondit vers D'Artagnan, que le vertige commençait à gagner, et qui chancelait en frôlant la porte son point d'appui. « À moi, dit-il, mousquetaire, regardez-nous au visage et voyez lequel de lui ou de moi est plus pâle. » Ce cri réveilla D'Artagnan et vint remuer en son cœur la fibre de l'obéissance. Il secoua son front et, sans hésiter désormais, il marcha vers Philippe, sur l'épaule duquel il appuya la main en disant « Monsieur, vous êtes mon prisonnier. » Philippe ne leva pas les yeux au ciel, ne bougea pas de la place où il se tenait comme cramponné au parquet, l'œil profondément attaché sur le roi son frère. Il lui reprochait, dans un sublime silence, tous ses malheurs passés, toutes ses tortures de l'avenir. Contre ce langage de l'âme, le roi ne se sentit plus de force. Il baissa les yeux, entraîna précipitamment son frère et sa belle-sœur, oubliant sa mère étendue sans mouvement, à trois pas du fils qu'elle laissait une seconde fois condamner à la mort. Philippe s'approcha d'Anne d'Autriche et lui dit d'une voix douce et noblement émue « Si je n'étais pas votre fils, je vous maudirais, ma mère, pour m'avoir rendu si malheureux. » D'Artagnan sentit un frisson passer dans la moelle de ses os. Il salua respectueusement le jeune prince et lui dit à demi courbé. « Excusez-moi, monseigneur, je ne suis qu'un soldat et mes serments sont à celui qui sort de cette chambre. »« Merci, monsieur D'Artagnan, mais qu'est devenu monsieur D'Herblay ?»« Monsieur D'Herblay est en sûreté, monseigneur, dit une voix derrière eux, et nul, moi vivant ou libre, ne fera tomber un cheveu de sa tête. « Monsieur Fouquet, dit le prince en souriant tristement. « Pardonnez-moi, monseigneur, dit Fouquet en s'agenouillant, mais celui qui vient de sortir d'ici était mon hôte. « Voilà, murmura Philippe avec un soupir, de braves amis et de bon cœur. Ils me font regretter ce monde. Marchez, monsieur D'Artagnan, je vous suis. » Au moment où le capitaine des mousquetaires allait sortir, Colbert apparut, remit à D'Artagnan un ordre du roi et se retira. D'Artagnan le lut et froissa le papier avec rage. « Qu'y a-t-il ? » demanda le prince. « Lisez, monseigneur, repartit le mousquetaire. Philippe lut ces mots tracés à la hâte de la main de Louis XIV. « Monsieur D'Artagnan conduira le prisonnier aux îles Sainte-Marguerite. Il lui couvrira le visage d'une visière de fer que le prisonnier ne pourra lever sous peine de vie. »« C'est juste, dit Philippe avec résignation. Je suis prêt. » »« Aramis avait raison, dit Fouquet bas au mousquetaire. Celui-ci est roi bien autant que l'autre. »« Plus, répliqua D'Artagnan. » Il ne lui manque que moi et vous.